voilà. On vous donnera des plus de
on donnera les infos
précisions plus tard. Quoi.
Et peut-être que d'ici là, on mettra Macron là-bas.
Voilà. Donc, on vous rappelle que vous êtes sur Radio Libertaire. C'est la fin de l'émission Le Monde Merveilleux du Travail. Je remercie Eric d'avoir fait l'animation, Norbert d'être venu, Fredo d'être venu. On va laisser l'antenne au Proton se rebiff. Et je vais lancer le générique.
De fin.
Ouais.
F-A-I-M.
Je vais lancer le générique. Et.
Et à ciao. Et à ciao. Et merci de nous avoir écoutés.
Et dans 15 jours.
Dans 15 jours. Dans 15 jours. Même encore maintenant, flirter avec le mouvement anarchiste, enfin les mouvements libertaires.
D'abord, faut plus de gouvernement. Puis, faut plus non plus de république. Plus de sénat et plus de parlement.
Et d'un cœur fraternel, nous réaliserons l'idéal libertaire.
Car moi, je veux.
Que vous, partout, vous alliez le faire gagner, parce que c'est notre projet.
Vive la révolution.
Le Proton se rebiffe. Vous écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, sans Dieu, ni maître, ni publicité. Bonsoir, vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, sans Dieu ni maître ni publicité. Le Proton se rebiffe, et ce soir nous parlons du livre d'Alain Deneau, De quoi Total est-elle la somme ? Multinationales et perversions du droit, paru chez Rue de l'Échiquier et Éco-Société. Ah, Total, cocorico ! La seule société française parmi les cinq majors, les entreprises géantes du pétrole. Total, le bonnet phrygien, Marianne, la République, Liberté, Égalité, Fraternité contre les Texans, la perfide Albion et les Yankees. Pas vraiment. Ce livre a, de très loin, la meilleure quatrième de couverture que j'ai jamais vue. Cette quatrième de couverture se contente en effet de reprendre la table des matières. Une table des matières très grammaticale, mais encore plus sanglante, car elle liste les 12 chapitres du livre que voici. Comploter, coloniser, collaborer, corrompre, conquérir, délocaliser, pressurer, polluer, vassaliser, nier, asservir, régir. Tiens donc, le fleuron de notre économie, le pilier de notre PIB, le sourire de notre CAC 40, ne serait qu'une vulgaire multinationale parmi tant d'autres ? Total ne serait que l'un de ces gangs mafieux qui, non content de ravager nos vies, ravagent, oh, juste en passant, aussi la planète. Oh que oui. Et je dois avouer que si l'on me parlait, il y a quelques années, de Total, je ne pensais certes pas avoir affaire à Médecins du Monde ou au Secours Populaire, mais la lecture de cette somme extrêmement bien documentée m'a stupéfié, tant la liste des méfaits, voire des crimes de Total, est longue. 500 pages, si vous voulez tout savoir. D'ailleurs, avec une savoureuse ironie et une érudition sans faille, la citation, en exergue au début du livre, vient de l'excellent lexicographe M. Littré, et c'est sa définition du mot « total ». Total, à quoi il ne manque rien. Et l'introduction de ce livre, dont le sous-titre, je rappelle, est « Multinationales et perversions du droit », l'introduction de ce livre, donc, s'intitule « Du droit à la violence ». Le droit à la violence, en première année de Sciences Po, allez, le premier ou le deuxième jour, on vous enseigne que l'une des définitions de l'État, c'est qu'il est l'institution qui a le monopole de la violence légitime. Mais Total, comme toute multinationale qui se respecte, pense autrement. Christophe de Margerie, ex-PDG de Total, avait déclaré, sourire aux lèvres, « Tant que ce n'est pas interdit, c'est permis ». Forte parole que l'auteur du livre, docteur en philosophie et forte tête, traduit brillamment ainsi. « Tant que nous serons une entité multinationale dans les interstices des nombreuses législations étatiques dont nos filiales relèvent, tant que nous savons nous mettre hors de portée de la nomenclature juridique, tant que nous disposons d'une force rhétorique capable de traduire en droit tout ce que nous faisons, notre activité ne saurait être entravée. » Fin de citation. Là, il faut le reconnaître, Total est bien français. Tout pour les apparences et faisons ce qui nous plaît derrière le paravent. L'hypocrisie est bien l'une des caractéristiques déterminantes de la culture française. Et quoique la culture française, officiellement, relègue l'argent parmi les choses honteuses entre les toilettes et les fautes d'orthographe, Total se vante d'un chiffre d'affaires annuel de pas loin de 200 milliards de dollars, qui lui vaut un profit parfois supérieur à 14 milliards d'euros. 14 milliards d'euros, et nous verrons plus loin que Total ne paye guère d'impôts sur ses fabuleux profits. Quant à être condamné des fraudes et des crimes qu'elle commet, ne rions pas, s'il vous plaît. Grâce à quel mécanisme ? Principalement à celui sur lequel le très utile sociologue allemand Georges Simmel, dont je recommande si souvent la lecture, a attiré l'attention. Les chaînes d'action. L'une des grandes différences entre les sociétés dites modernes et celles dites traditionnelles est la longueur des chaînes d'action. Si vous appartenez à la tribu des Yanomameux, ou si vous êtes un pygmée dans la jungle ou un papou dans une vallée perdue de Nouvelle-Guinée, votre vie ne dépend que de chaînes d'action très courtes. Vous avez fabriqué vous-même les trois quarts des outils et des armes dont vous vous servez, vous chassez le plus souvent seul, votre femme cueille au moins la moitié de ce que vous mangez et en cuisine quasiment la totalité. Bref, vous ne contribuez à et ne recevez de que d'un très petit nombre d'êtres humains. Mais si vous êtes monsieur le président directeur général de Total, vos ordres directs touchent au minimum une centaine de milliers d'employés et impactent la vie de centaines de millions de personnes. Votre multinationale utilise des milliers d'autres sociétés afin de profiter des différences de législation dans quasiment tous les pays du monde. Bon, peut-être pas la Corée du Nord, encore que. Ces milliers de sociétés utilisent des produits et des services provenant de dizaines de milliers de sociétés qui, à leur tour, etc. Qui a la responsabilité de tout ça ? C'était l'argument des nazis jugés à Nuremberg. Je suivais les ordres. Le SS, qui ouvrait la capsule de Zyklon B à Auschwitz, suivait les ordres. Les gardiens d'Auschwitz suivaient les ordres. Les conducteurs des trains suivaient les ordres. Eichmann suivait les ordres. Et même Christophe de Margerie ne fait qu'obéir à la loi d'airain de la shareholder value, en bon français, du profit pour les actionnaires. Allons, soupirons. Et passons au premier chapitre du livre d'Alain Deneau, De quoi Total est-elle la somme ? Thank you. Notre compositeur bien-aimé Monsieur Rameau, et c'était joué par le duo de guitaristes Sergio et Odaïr Assad, rien à voir avec le boucher de la Syrie. Vous êtes toujours sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, sans Dieu, ni maître, ni publicité, et c'est toujours le proton se rebiffe, et ce soir, nous parlons du livre d'Alain Deneau, De quoi total est-elle la somme, paru chez Rue de l'Échiquier et Éco-Société. Donc, le premier chapitre, intitulé avec un beau sens de la litote, Comploté. Ce chapitre nous enseigne que Total est né de la même façon et à partir de la même nécessité que, bien plus tard, tout le nucléaire français. En effet, pendant la guerre de 14-18, déjà, le pétrole était une matière première indispensable. Or, pendant toute cette guerre, qui donc fournit le pétrole à la France et à son armée? Monsieur Rockefeller. Incidemment, les Rockefeller furent il y a quelques siècles des roquefeuilles bien français. La Troisième République n'apprécia ni les prix exorbitants de Mr. Rockefeller, ni le fait que celui-ci n'eut aucun état d'âme à vendre sa marchandise également à l'Allemagne. On décida donc de créer une société franco-française pour assurer l'indépendance de l'approvisionnement énergétique de la France. Et en 1924 naît donc la Compagnie française des pétroles. Mais au lieu de créer tout bonnement une compagnie strictement étatique, du style plus tard d'EDF, on crée une société de droit privé. Certes, l'État possède 35% des actions et 40% des droits de vote, mais le ver est dans le fruit. Un peu plus loin, Alain Deneau cite l'historien Timothy Mitchell qui résume brillamment pourquoi les multinationales pétrolières sont parmi les entreprises les plus profitables du monde. Comme le pétrole était une marchandise relativement peu coûteuse à produire et occupait une place de plus en plus importante dans la société industrialisée, il suffisait d'en limiter l'offre pour réaliser des profits considérables. L'objectif des compagnies pétrolières fut donc de prendre le contrôle des conduits, des sites de traitement et des goulots par lesquels le pétrole devait passer, de restreindre le développement des canaux autres, à commencer par les puits de pétrole eux-mêmes, et d'utiliser cette maîtrise des principaux points de passage pour convertir le flux pétrolier en profit. Fin de citation et belle description de l'un des plus puissants mécanismes grâce auquel le capitalisme ravage la planète et nos vies. On sait bien sûr que le meilleur allié, ou plutôt le meilleur serviteur du capitalisme, c'est l'État. Écoutons donc ce que dit Alain Deneau. Puisqu'il s'agit de développer l'activité pétrolière sur une échelle vaste, au point que seules quelques grandes entreprises peuvent s'y adonner, un lien de dépendance réciproque unit au départ les sociétés pétrolières et les États. Tandis que les premières se rendent indispensables en tant que fournisseurs, les seconds le deviennent comme législateurs. Il faut aux pétrolières des États qui sachent placer sous leur domination les régions du monde où elles entendent travailler, c'est-à-dire vassaliser leurs représentants politiques. Un oligopole mondial requiert que des autorités taillées sur mesure encadrent l'attribution des concessions, attestent des droits d'exploration, émettent des permis d'exploitation, construisent routes et chemins de fer, sécurisent les oléoducs et autres voies de transport, s'occupent au développement de ports et autorisent l'ouverture de plateformes en mer. Et l'on ne parle pas encore de la sécurité garantissant les investissements. Fin de citation. J'ajouterai bien sûr qu'un rôle essentiel des États et de garantir la stabilité des dépôts bancaires et en particulier de celle des paradis fiscaux. Souvenons-nous que la CFP, futur Total, démarre en 1924. Or, en 1924, il n'y a pas l'ONU, il y a la Société des Nations. Et comme en 1924, le colonialisme était encore vu officiellement comme une pieuse œuvre de civilisation des sauvages, la Société des Nations ne voit aucun problème à la création de cette institution qu'elle appela le mandat, c'est-à-dire à l'officialisation du fait qu'un État puissant a le droit de contrôler un État faible. Cette structure ahurissante va beaucoup servir les pétrolières. Par exemple, la Grande-Bretagne crée de toutes pièces une entité baroque et biscornue appelée Irak, afin de s'assurer que l'État fantoche irakien ne prélève aucun impôt sur l'extraction pétrolière britannique sur son territoire. Coup de chance pour la CFP, elle réussit à obtenir 23,75% de l'Iraq Petroleum Company, le monopole irakien. Les Anglais et les États-Unis se partagent le reste du gâteau. C'est le début de cette collusion mondiale entre les majors qui, quoique dépourvus de tout scrupule, comprennent qu'il est plus rentable d'établir un cartel mondial plutôt que de se tirer constamment dans les pattes les unes les autres. Certes, aujourd'hui, les invités au banquet sont un peu plus nombreux, en particulier parce qu'un certain nombre d'États s'y sont incrustés, de gré ou de force, comme la Russie, la Norvège, l'Iran, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, etc. Mais ça ne change rien au sort du commun des mortels, forcé de continuer à enrichir ce cartel. Et dans les rares cas où ça branle un peu dans le manche, un État moins malhonnête ou plus déterminé n'a jamais affaire à une seule société bien identifiable, aisément contrôlable sur un territoire bien délimité, mais à cette ahurissante galaxie mouvante, fragmentée, labyrinthique. Labyrinthique, mais mondiale. Alain Deneau décrit ainsi une affaire stupéfiante à propos d'Air France. Air France, alors voilà une compagnie d'État. Oui, mais Air France est une compagnie qui consomme d'énormes quantités d'un produit pétrolier très coûteux, le kérosène. Dans les années 60, histoire de payer un peu moins cher, et puis histoire aussi de pouvoir planifier ses dépenses sur les trois prochaines années, Air France passe un contrat d'approvisionnement mondial avec un seul fournisseur. Et en plus, pas membre du cartel. Péché mortel. Aiguillonné, le croiriez-vous par Elf et Total, des compagnies officiellement françaises, le cartel décida de punir Air France et de lui imposer ses propres prix. Air France va regimber et, selon les déclarations de l'un de ses directeurs, va même subir plusieurs fois des refus d'approvisionnement d'avions, et il est donc arrivé que des avions d'Air France ne soient pas partis à cause du refus du cartel pétrolier de l'approvisionner. Thank you. C'était Le rappel des oiseaux par Rameau, joué par le duo de guitaristes Sergio et Odaïr Assad, absolument pas de la famille du boucher de la Syrie. Vous êtes toujours sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, sans Dieu ni maître ni publicité, c'est le Proton se rebiffe. Et ce soir, nous parlons du livre d'Alain Denot, De quoi Total est-elle la somme, paru chez Rue de l'Échiquier et Éco-Société. On sait bien que les cartels mafieux ne sont jamais éternels. Et le cartel pétrolier, en suivant cette règle, a bien souvent changé de configuration. Un exemple célèbre, dont les conséquences se font encore durement sentir aujourd'hui, c'est la fondation de l'Aramco, Arabian American Oil Company. Le trust, chargé d'extraire l'or noir du sol de la plus riche nation en pétrole du monde, l'Arabie Saoudite. Là, les majors américaines ne voulurent ni des Anglais, ni des Français. Aux Anglais, ils accordèrent des concessions ailleurs. Aux Français, ils rappelèrent, sans politesse ni gentillesse, que les accords conclus avec la CFP de la Troisième République furent rendus caducs lorsque la CFP devint le valet de Pétain, grand copain de Hitler. Plus faux cul, tu meurs. Mais on imagine aisément qu'en 1945, De Gaulle et la CFP n'ont strictement aucun moyen de s'opposer à l'avidité américaine. Et les États-Unis en remettent une couche en 1953, quand la CIA vire, comme un majordome indélicat a pris la main dans le sac, Mossadegh, un premier ministre iranien qui avait eu le culot d'exiger qu'on lui communique la comptabilité du trust anglo-américain qui pillait allègrement le pétrole iranien. De Gaulle, puis les myriades de gouvernements successifs de la 4ème République, puis De Gaulle à nouveau, veulent, encore une fois, l'indépendance énergétique et pétrolière de la France. Or, coup de chance, la France c'est la France, donc c'est l'Algérie. Eh oui, souvenons-nous que quelques millions de cinglés hurlaient en chœur « L'Algérie, c'est la France !» Et en Algérie, il y a du pétrole. Seulement, les gaullistes se méfient, à raison, de la CFP, car l'État français n'y a, souvenons-nous, que 40% des droits de vote. Et les autres actionnaires sont souvent, au resco référence, des étrangers, voire, pire, des étrangers anglo-saxons. Il faut donc créer une société pétrolière franco-française, Cocorico, et pas du tout Cocorico. Ce sera ELF. Nous avions gagné, non ? Société d'État exploitant largement assez de pétrole pour les besoins français, sur le territoire français, monsieur. C'était évidemment sans compter sur la mauvaise volonté des Algériens, qui eurent l'idée saugrenue de ne plus vouloir être français. Puis, lorsqu'ils eurent arraché la certitude de leur indépendance, celle plus saugrenue encore, de refuser une proposition gaulienne, pourtant marquée au coin du bon sens le plus gaulois, que le Sahara, là où il y a le pétrole, que le Sahara reste français, et qu'une fine bande de plusieurs centaines de kilomètres de long et quelques kilomètres de large, oh, juste quelques kilomètres de large, reste elle aussi française, séparant en deux le territoire algérien, de façon à maintenir les bénéfices français sans payer le moindre sou au tout neuf État algérien. On se demande encore pourquoi les Algériens ont repoussé cette proposition française, pourtant présentée de la manière la plus courtoise qui soit. Bon, les Algériens vont quand même créer la Sonatrach, leur ELF à eux. Et petit à petit, ils arracheront aux Français un partage des profits nettement plus équitable que prévu. Mais dans l'intervalle, ELF sera devenu un géant de plus. En particulier grâce à cette structure qui fait si honneur à la France, la France-Afrique. Car il y a aussi du pétrole en Afrique noire, par exemple au Gabon. Et comme on sait, comme le souligne Alain Denot, indépendance ne signifie pas nécessairement démocratie. En un rien de temps, toutes les anciennes colonies françaises virent à la dictature, dont les dictateurs s'achètent des triplex avenue Foch et des chasses en Sologne, le tout sous l'égide si bienveillante de Jacques Foccart, ex-membre des services secrets de la France libre, ex-chef d'orchestre du retour au pouvoir de De Gaulle en 1958, et enfin promu tsar de la France-Afrique. Son rôle était simple. À l'un de nous cite Loïc Le Floch Prigent, ex-président directeur général d'ELF. À partir du moment où il y a pétrole, il faut une certaine stabilité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer des coups d'État tous les 3 mois. Fin de citation. Et de nous de continuer. Entre le moment où l'on découvre du pétrole et celui où on l'extrait du sol, il se déroule environ 7 ans. Un terme durant lequel les investisseurs veulent pouvoir compter sur une entité politique qui garantisse leur engagement. Sans parler des décennies d'exploitation que peut représenter une telle source. Fin de citation. Et de nous d'appeler les régimes de la France-Afrique ni démocratie ni dictature, mais, cruelle ironie, démocrature. On comprend mieux la biographie du parfait démocrateur, Omar Bongo, ancien sous-officier de l'armée de l'air française, qui va rester au pouvoir au Gabon pendant 41 ans et dont le fils n'a été viré que cette année, en 2023, c'est-à-dire qu'un Bongo, père ou fils, a dirigé le Gabon pendant 63 ans. Et cela d'abord et avant tout dans l'intérêt d'ELF. Là, l'auditrice alerte va objecter « Minute papillon, on parlait de Total, maintenant c'est ELF. » Oui, mais ELF, c'est fini. ELF a été entièrement absorbé par Total. Et le problème est donc que ce n'est pas Total qui devient une société contrôlée par l'État français. C'est ELF, ex-société contrôlée par l'État français et contrôlant une flopée de démocratures africaines, qui va être mangée par Total. On va donc avoir la synthèse entre Total, membre du cartel, grande connaisseuse des réseaux mondiaux du pétrole, et ELF, impératrice d'Afrique. D'où la présence actuelle de Total, non pas parmi les 7 premières entreprises pétrolières mondiales, mais parmi les 5 premières. On se souvient que l'un des chapitres du livre d'Alain Deneau, « De quoi Total est-elle la somme, multinationales et perversions du droit ?» s'intitule « Collaborer ». Et « collaborer » en France, c'est devenu un mot lourd d'une connotation des plus péjoratives. Deneau l'a donc évidemment choisi pour rappeler que Total, entreprise originaire d'un pays dont la devise est « liberté, égalité, fraternité », a cependant collaboré sans le moindre scrupule avec l'apartheid imposé par les Blancs en Afrique du Sud, et ce, alors même qu'en théorie, un embargo sur l'Afrique du Sud et ses produits avait été décidé. Certes, Total était en compagnie de 85 autres entreprises françaises, mais cela ne l'excuse en rien.
Já
venez d'entendre « O Cantica do Pastor » de Madre Deus. Vous êtes toujours sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, sans Dieu, ni maître, ni publicité. C'est le Proton sur Bif, et ce soir nous parlons du livre d'Alain Denot, « De quoi Total est-elle la somme ?» paru chez Rue de l'Échiquier et Éco-Société. Le chapitre après « Collaborer » s'intitule « Corrompre ». Or, la corruption, qu'elle soit passive ou active, est très explicitement interdite par le droit français. Mais la CFP, mais Elf, mais leur fille Total, ont corrompu non pas des dizaines, non pas des centaines, mais des milliers de personnes, des chefs d'État, des ministres, des hauts fonctionnaires, des militaires, des magistrats, etc. Et pour des sommes dont on ignorera évidemment toujours le montant total, mais ce montant se chiffrera en milliards, pas en millions. La chose étant impossible à nier, les dirigeants et les avocats d'Elf puis de Total ont recours à 5 arguments que liste Alain Denot. 1. Un principe de réalité commande qu'il y ait des pots de vin, puisqu'aucun pays détenant du pétrole ne permettra d'y accéder si les intermédiaires, hauts fonctionnaires et ministres concernés ne sont pas personnellement rétribués au passage. Fin de citation. Traduisons, si tout le monde est criminel, il n'y a pas de raison que nous ne le soyons pas non plus. Continuons la citation de Denot. 2. Il y a lieu de dire de telles opérations qu'elles se conforment à la lettre de la loi ou qu'elles ont au moins l'apparence de la légalité, fût-ce cette nature légale définie par des législations complaisantes. Fin de citation. Traduisons. Ne nous emmerdez pas, les lois du Gabon disent très exactement ce que nous avons payé pour qu'elles le disent, et nous sommes donc blancs comme neige. 3. Ces opérations, dans l'éventualité où elles ne seraient pas rigoureusement conformes à la loi, sont légitimes dans la mesure où, en France, leur réalité a été portée à la connaissance des responsables politiques en exercice, soit le président de la République ainsi que le ministre de l'Économie et des Finances. Fin de citation. Traduisons, c'est pas moi, c'est mon chef. 4. Les centaines de millions de dollars en cause dans ces valses de commission ne représentent qu'un faible pourcentage des investissements dans le domaine pétrolier. Il ne serait compté que comme de la menue monnaie. 5. Le phénomène tel qu'on l'observe existe depuis la nuit des temps, et ce serait péché par naïveté que de ne pas en reconnaître la réalité, si possible avec un large sourire. Fin de citation. Traduisons cet argument écrit par Alain Denot, mais utilisé constamment par les dirigeants d'Elf puis de Total. On vole, on viole, on torture et on tue depuis des millénaires, donc voler, violer, torturer et tuer ne sont pas des crimes, mais des traditions. Et puis, ajoutons à cette liste d'arguments l'analyse très fine qu'effectue Alain Denot à partir d'un mot utilisé très fréquemment, les rétrocommissions. Il en écrit ceci. Les rétrocommissions font tout aussi nécessairement partie du jeu. Elles consistent à financer les partis politiques français, les campagnes électorales de tels ministres ou députés influents, ainsi que le personnel de tels prospects. Les bénéficiaires agissant aussi dans les secteurs de l'entreprise, du journalisme, des arts et de la culture. Robert Maloubier, membre des services secrets et directeur administratif d'Elf au Nigeria de 1968 à 1970, indiquait au début des années 2000 que généralement, le destinataire d'une commission reverse 50% du montant en cause dans un système occulte à celui qui le lui a payé, et en bénéficieront un responsable politique, un parti politique. Des millions de dollars achètent ainsi le silence d'acteurs publics officiellement rattachés aux courants politiques les plus variés. Maurice Robert, ex-membre des services secrets lui aussi, fait diplomate sur le tard avant de devenir conseiller de président africain, lâche la chose comme une évidence. Les chefs d'État africains ont eu l'intelligence justement de financer tout le monde, Ils ont financé la gauche comme ils ont financé la droite. Tous les partis, ce sont des valises qui circulent. » Fin de citation. Laurence Soudet, collaboratrice de François Mitterrand lors des campagnes de présidentielles de 1965 et de 1974, a confirmé être allée quérir au bureau d'Elf une mallette remplie de billets de banque pour son candidat, en ajoutant que dans le contexte d'élections législatives, de nombreuses enveloppes nominatives étaient préparées à l'attention des concurrents engagés. Un des principaux intermédiaires d'Elf, André Guelfi, lâchera crûment. Si la justice devait mettre en prison tous ceux qui ont touché de l'argent d'Elf, il n'y aurait pas grand monde en France pour former un gouvernement. Elf arrosait tous azimuts, tous les partis ont touché, le PS, le RPR, tout le monde. Fin de citation. Et Loïc Le Floch-Prigent de préciser, si tout le monde se sert du gâteau, plus personne ne peut rien dire. Fin de citation. Bien entendu, ces pratiques sont habillées d'un masque légal, voire constitutionnel. Et je cite à nouveau le livre d'Alain Deneau, De quoi Total est-elle la somme, multinationales et perversions du droit. Le PDG d'Elf dans les années 1980, Albin Chalandon, assimilait la corruption à des arguties constitutionnelles. Voici ce que Chalandon disait. Nous exécutions les instructions qui nous étaient données par ou le chef d'État africain, ou son ministre du pétrole, ou celui des finances, de verser l'argent que nous devions à telle société ou à tel compte en banque, etc. Voilà. Je ne peux pas vous en dire plus. Je pense que nous n'avions pas à interférer dans ce type d'instructions données parce que c'était leur souveraineté et que nous interagissions dans le cadre d'un contrat qui a été signé entre les deux parties. Expliquait donc celui qu'on surnommait le bel Albin en ne dissimulant pas son sourire. Répliquant lui aussi sur le terrain constitutionnel, Le Floch-Prigent insistera quant à lui sur la légitimité de son action en ce qu'elle relève de la volonté de l'exécutif, qui est alors l'actionnaire majoritaire du groupe. Et prenant l'exemple des commissions, il déclare « J'en informe, moi, le président de la République ou son secrétaire général, et mon directeur financier en informe le directeur des douanes et le directeur du budget. Donc c'est un système qui fonctionne non de façon occulte, mais de façon claire, nette, républicaine. » Fin de citation. Alain Deneau, pardon, continue, lui. Pour bénéficier du paravent du droit et des institutions politiques, des habitudes se développent de ne jamais appeler un chat, de toujours rendre nébuleux, d'inverser les rapports de cause à effet afin que ce que l'on impose avec autorité aux pays du Sud passe pour ce qu'on nous demande d'exécuter formellement. Et désigner par des termes qui relèvent de l'appareil du droit des opérations qui consistent à lui échapper. Dans le vocabulaire des initiés, ce traitement, étude, prestation, rhétorique procède de l'habillage. On habille une dette, une prestation. Le crime devient insaisissable lorsque ceux-là même qui le commettent imitent la terminologie du droit afin d'en prévoir la neutralisation. Les discours servent davantage dans ce contexte à traverser imperceptiblement les frontières du droit plutôt qu'à en marquer l'autorité. Ce sont du coup les termes formels de l'activité administrative et juridique qui perdent tout leur sens. Que recouvre encore le terme « impôt » quand l'actuel président de Total déclare qu'en Angola, nous sommes taxés à près de 60% et les recettes pétrolières représentent plus de 90% de l'État angolais. Quel est cet État? À quelle fin se trouve constitué ce budget de l'État? Et, auditrices et auditeurs de Radio Libertaire, si vous êtes parisienne ou parisien, en ce qui concerne l'Angola, il y a quelque chose de très simple. Allez avenue Foch pour y admirer l'un des plus beaux hôtels particuliers, c'est celui avec le plus grand jardin privatif autour. Eh bien, ce quasi-palais, c'est tout simplement l'ambassade d'Angola. Et quand on regarde ce bâtiment, on comprend qu'il a dû coûter, ou enfin qu'il vaudrait en tout cas maintenant, entre 300 et 400 millions d'euros. Et puisqu'après tout, nous parlons de proportion entre la pauvreté des citoyens en Angola et la richesse du palais qui abrite l'ambassade d'Angola avenue Foch, nous pouvons aussi parler d'autres proportions, comme le fit le PDG d'Elfe lui-même, Loïc Le Floch-Prigent, qui déclara « Depuis 30 ans, tout le monde est content. C'est marginal par rapport aux chiffres d'affaires d'Elfe. Et tout le monde est content. On est en train de raisonner sur des dizaines de millions de francs, voilà. » Fin de citation. Il ne faut pas trop espérer, rappelle Alain Deneau, de l'institution judiciaire. Il cite en effet le livre d'Eva Joly, cette juge qui fut célèbre il y a encore peu. Eva Joly a écrit ceci. « La magistrature à laquelle j'ai appartenu est devenue un corps faible, où il vaut mieux fuir les élévations et les honneurs, rester un juge des enfants, un substitut ou un juge d'instruction, si on veut tenter d'agir sur le réel. » Fin de citation. Et si nous continuons à parler de l'Angola, c'est aussi parce que le chapitre suivant du livre d'Alain Deneau s'appelle « Conquérir ». Et le titre du premier paragraphe de ce chapitre, c'est « Armer deux camps en Angola ». Car de fait, les champs pétroliers de l'Angola ont été découverts relativement récemment. Ils ont fait l'objet d'une compétition très vive entre plusieurs compagnies pétrolières, et Elfe a été bien entendu présente, avec un certain succès, mais c'est tout simplement parce qu'elle a largement arrosé les camps opposés qui se livraient une très dure guerre civile.
Thank you.
écoutiez la sonate K96 de Scarlatti. Vous êtes toujours sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, sans Dieu, ni maître, ni publicité. C'est toujours Le Proton se rebiffe. Et ce soir, nous parlons du livre d'Alain Deneau, De quoi Total est-elle la somme, multinationales et perversions du droit, paru chez Rue de l'Échiquier et Éco-Société. Le chapitre 6 s'appelle « Délocaliser ». C'est évidemment là un titre des plus sarcastiques, puisque la délocalisation en question, c'est celle qui a à voir avec les paradis fiscaux. Par exemple, Elf, d'un point de vue purement légal, fut en grande partie une entreprise suisse et non pas française. Quant à la Compagnie française des pétroles, l'ancêtre de Total, elle fut également en grande partie une société des Bermudes. Et l'actuel Total, évidemment, a maintenu ce genre de disposition. Aujourd'hui encore, il est extrêmement difficile de savoir exactement où passent tous les bénéfices. Néanmoins, il est parfaitement évident quand on lit le livre d'Alain Deneau qu'il y a de l'argent aux Bahamas, aux Bermudes, à Londres, à Malte, au Panama, en Suisse, etc. Quant au chapitre 8 du livre d'Alain Deneau, il s'appelle « Polluer » et il commence ainsi, je cite. « La vie au Nigeria est apocalyptique. L'équivalent d'une grande marée noire par an y est déversée depuis plus de 50 ans. 2 millions de tonnes de brut contribuent ainsi à la contamination de terres jadis arables. Plus de 2000 sites sont concernés. Les villages du delta du Niger sont quadrillés par 10 000 km d'oléoducs dont plusieurs, en service depuis 40 ans, sont rouillés. Dans la plupart des cas, l'entreprise ne nettoie pas leur pollution, mais laisse les nappes de pétrole contaminer les forêts, les terres agricoles et les ruisseaux, tuant ainsi toute vie. L'exploitation pétrolière met également en péril l'un des plus importants systèmes, écosystèmes marins et côtiers du monde. Alain Deneau continue à écrire ceci. Le peuple égyptien en sait quelque chose. Depuis 1962, d'abord par l'entremise d'Elf, puis de sa propre filiale, Total exploite son territoire, composé de 100 000 personnes, réparties dans 17 villages. Le peuple Eji se trouve dans le royaume Pogba, administré par le gouvernement local Drogba, Egbel Mandoli, dans l'état de Rivers. Avec les autres compagnies pétrolières, Total a rendu le sud du Nigeria inhabitable. Par exemple, en 2012, le site d'exploitation gazier Ibewa a été le théâtre d'une explosion souterraine d'une rare violence. Des éruptions de gaz ont condamné des hectares de cultures. Le premier jour de ces fuites, les gens se sauvaient pour s'abriter car le gaz sortait de terre mélangé à la boue, faisant d'énormes trous. Un témoin dira « L'éruption était si forte que la pression a transporté la boue jusqu'à la hauteur d'un très grand palmier. » Dans cette odeur fétide où même les plantes en sont venues à développer des malformations, les gens sont tombés malades. L'eau n'était plus potable. Et utiliser le moindre objet électronique comme un téléphone pouvait provoquer une explosion. Laissant en plan la population, les représentants de Total ont admis être à court de solutions. Un an avant l'événement, Total prétendait que la région Ibewa est une zone inhabitée sur laquelle se trouvent quelques arbres de manioc et non plusieurs hectares. Les Amis de la Terre France ont porté Total au rang des sociétés sélectionnées pour son prix Pinocchio 2014, en citant le cas du peuple Eji. Fin de citation. c'était My Old Friend par Marcel Dadi. Vous êtes toujours sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, sans Dieu ni maître ni publicité. C'est Le Proton se rebiffe, et ce soir, nous parlons du livre d'Alain Deneau, De quoi Total est-elle la somme, multinationales et perversions du droit, paru chez Rue de l'Échiquier et Éco-Société. Nous sommes toujours au Nigeria, et Alain Deneau nous rappelle que dans énormément de forages pétroliers, on se contente de brûler le gaz qui sort en même temps que le pétrole. Les compagnies pétrolières affirment que ce gaz coûterait trop cher à capter et à transporter. Le problème, c'est que brûler ce gaz constamment, nuit et jour, 24 heures sur 24, cela libère des toxines dangereuses pour tous les écosystèmes et cela produit massivement des gaz à effet de serre. Le seul Nigeria provoque 13% du total mondial des émissions de gaz à effet de serre dû à ce mécanisme. Et en plus, cerise sur le gâteau, le torchage, c'est-à-dire le fait de brûler le gaz dès sa sortie d'un puits de pétrole, le torchage provoque des pluies acides. Mais les populations africaines vivent un étonnant paradoxe. Car au Nigeria, on extrait le pétrole, oui, mais on ne le raffine pas. Et alors, les Nigérians subissent des pénuries d'essence constantes. Et quand il y a quand même de l'essence, alors elle est beaucoup trop chère, puisqu'elle est importée. C'est la raison pour laquelle des bandes organisées dérobent de grands volumes de pétrole en perforant les pipelines construits par les multinationales. Et le problème, c'est que dans ces pipelines, le pétrole qui circule n'est pas raffiné, nous venons de l'apprendre. Ce sont donc les voleurs, on devrait les appeler les récupérateurs, de ce pétrole qui le raffine. Bien sûr, ils ne peuvent en tirer que des produits de très mauvaise qualité. C'est pour cela que ce pétrole mal raffiné, ce mazout, cette essence qui mérite à peine leur nom, sont répandus dans tout le Nigeria. On reconnaît facilement les voitures qui roulent avec ces mauvais produits, elles crachent une fumée noire qui se répand dans toute la ville, quand leur moteur ne saute pas, tout simplement. Une chose peu connue en France à propos de Total, c'est que, nous l'avons dit, l'actionnariat de Total est très loin d'être majoritairement français. L'État français, continue à posséder une part importante, mais absolument pas majoritaire, et le reste de l'actionnariat compte des gens pas français du tout. Oh, francophones, pour certains, puisque l'un des hommes les plus riches du Canada, originaire de la minorité francophone de l'Ontario, Paul Desmarais, est un actionnaire très important de Total. Et Paul Desmarais, à la fois pour son compte personnel et pour le compte de Total, n'hésite pas à intervenir dans la politique française. Alain Deneau rappelle que Nicolas Sarkozy, ex-président de la République, a décoré Desmarais non pas simplement de la Légion d'honneur, mais de la Grand Croix de la Légion d'honneur. Nicolas Sarkozy a déclaré « Si je suis aujourd'hui président, je le dois en partie au conseil, à l'amitié et à la fidélité de Paul Desmarais. Un homme m'a invité au Québec dans sa famille. Nous marchions de longues heures en forêt et il me disait « Il faut que tu t'accroches, tu vas y arriver. Il faut que nous bâtissions une stratégie pour toi. » Fin de citation. Alain Deneau commente ironiquement « On n'aura pas droit à tous les termes de l'échange. » C'était au milieu des années 1990, après l'élection présidentielle de Jacques Chirac, qui mit au banc le camp du rival Édouard Balladur, auquel Sarkozy appartenait. Et Alain Deneau rajoute ceci. Encore plus ubuesque qu'Ubu, Sarkozy pousse la flagornerie au point de décorer en 2011 l'épouse de Desmarais, Jacqueline, de la Légion d'honneur, sans autre raison que personnelle. Le Canada a pourtant de bonnes raisons de se préoccuper des problèmes pétroliers. En effet, on y a découvert une ressource à la fois gigantesque et très dangereuse, les sables bitumineux de la province de l'Alberta. Ces sables bitumineux sont malheureusement extrêmement polluants. Le bitume que l'on peut en tirer est en effet composé à hauteur de 15 à 30% de coke de pétrole, une teneur beaucoup plus élevée que le pétrole conventionnel, et ce matériau très proche du charbon s'avère encore plus polluant que le charbon, il provoque des émissions de gaz carbonique encore pires que celles du charbon. Enfin, puisque les sables bitumineux sont particulièrement difficiles à extraire, il faut, nous explique Alain Deneau, il faut les raffiner partiellement in situ, selon des modalités coûteuses, énergivores, polluantes et, à très grande échelle, destructrices de la faune et des forêts. Le paysage qui s'en dégage est apocalyptique. La pollution générée par l'exploitation de ce pétrole sale revient à décharger dans les sources l'équivalent de 5000 barils de pétrole par jour, tandis que meurent les oiseaux exposés. Le professeur de physique Normand Mousseau tire le coup de grâce sur les sables bitumineux et le coût faramineux de leur exploitation en disant que brûler 2 barils de pétrole pour en produire 3 souligne l'inefficacité du processus et le coût environnemental de ce produit. Fin de citation. Je vous laisse découvrir ce livre extrêmement complet, superbement documenté et qui prouve, sans le moindre doute, que, comme toutes les multinationales, Total n'est pas qu'une entreprise, c'est une entreprise criminelle.
Le proton se rebiffe. Vous écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, sans Dieu, ni maître, ni publicité.
Les soupçons s'insinuent. Nos silences nous lacèrent et l'on se sent si nu. La jalousie sincère, les soupçons s'insinuent. L'amour qu'on incinère nous met les nerfs à nu. Les rêves d'hier et demain dans les poches, avec le cœur au bord des yeux. Un matin, on se fait la valoche. C'est la consigne des adieux. La jalousie sincère, l'assassin s'insinue. On refoule en enfer ce qu'on portait au nu. Quand l'amnésie sincère, le venin s'atténue, les taux qui se desserrent nous laissent un peu déçus. La jalousie sincère, les soupçons s'insinuent. Nos silences nous lacèrent et l'on se sent si nu. La jalousie sincère, les soupçons s'insinuent. L'amour qu'on incinère nous met les nerfs à nu. La jalousie sincère, l'assassin s'insinue. On refoule en enfer ce qu'on portait au nu. Quand l'amnésie sincère, le venin s'atténue, les taux qui se desserrent nous laissent un peu déçus. 3 fois rien, juste un détail qui cloche.
Je suis, messieurs et mesdames, je suis un crétin. Renaud est un dissimulateur, Jacques Higelin est un enthousiaste, Serge Gainsbourg est un alcoolique, Georges Brassens est un mort, et je suis un crétin. Tous les chanteurs sont des crétins.
Il La mort de la chanson torture quelques profs de littérature qui brassassent dans la confiture et Jacques Brel à gros intestin. Les ministres de la culture qui décorent Charles et les coutures évoquent un problème de structure et font quelques tours de scrutin. Mais les chanteurs sont des crétins. Tous les chanteurs sont des crétins. Mais les chanteurs sont des crétins. Tous les chanteurs sont des crétins. Émergeant d'entre deux bitures, Gainsbourg joue la désinvolture, nous fourgue sa progéniture et balbutie son baratin. Après 25 ans d'imposture, Johnny, le rocker du futur, nous propose une nouvelle coiffure et ses ruptures font du potin. Mais les chanteurs sont des crétins. Tous les chanteurs sont des crétins. Sur les murs des sous-préfectures, Paul Naref dans ses vergetures, la vie et sa musculature, et Dalida son popotin. La mort de la chanson torture quelques profs de littérature qui brassassent dans la confiture et Jacques Brel à gros intestin. Mais les chanteurs sont des crétins. Tous les chanteurs sont des crétins. Mais les chanteurs sont des crétins. Tous les chanteurs sont des crétins.
C'était un petit, tout petit voilier, un petit bateau de pêche. On l'avait bâti d'un bout de papier et d'un vieux noyau de pêche. Dans un petit port entre deux roseaux, on l'avait mis à la mare. Il appareillait dès qu'il faisait beau pour naviguer sur la mare. Mais un jour, le petit bateau fit un rêve. À son tour, il voulut entreprendre un voyage long cours. Alors il s'en fut magnifiquement, tout là-bas vers les tropiques. La vie qu'il menait lui donnait vraiment des idées misanthropiques. En l'apercevant, chaque nénuphar craignait qu'un malheur n'arrive. Et le ver luisant qui servait de phare lui criait « Rejoins la rive !» Mais il répondit d'un air malséant « Je ne crains pas les déboires, aussi bien le fleuve et les océans, ce n'est pas la mer à boire. » Quel plaisir de voguer ainsi sur les ondes. Quel plaisir de pouvoir naviguer au gré de son désir. Le ciel est tout bleu et le vent léger, tous ces braves gens divaguent. Je me moque bien d'ailleurs du danger, car je n'ai pas peur des vagues. savait pas qu'à côté de lui, un canard faisait trempette. Pour notre bateau qui était si petit, cela fit une tempête. Et rapidement, je vous en réponds, les événements se gâtent. L'eau s'est engouffrée dans les entrepôts, adieu la jolie frégate. Sauf qui peut griller le navire en détresse. Sauf qui peut, je ne vais plus jamais revoir le beau ciel bleu. Et tout en pleurant sa vie d'autrefois, le petit bateau chavire. Ça prouve qu'il faut demeurer chez soi quand on n'est qu'un petit navire.
Radio Libertaire 89.4.
Passion romantique, en le regardant je me sens drôle. drôle. Ce grain de beauté vaut un poème. Un jour j'écrirai un sonnet, oui un sonnet, que je te dédicacerai pour te prouver combien je t'aime.
Eh bien écrivez mon ami, je ne doute pas de votre génie. Et lorsque vous aurez fini, venez me rejoindre dans mon... Eh bien écrivez mon ami, je ne doute pas de votre génie. Et lorsque vous aurez fini, venez me rejoindre dans mon... Dans mon... Lui.
Chopin disait à Georges Sand, j'ai des frissons derrière le cou. Quand tu es nu, quand tu es nu, tu me rends fou. Tes seins sont ronds comme des Hollandes. Ce grain de beauté sur ton épaule, pareil à une note de musique, inspire ma veine romantique. En l'écoutant, je me sens drôle, très drôle. Ce grain de beauté vaut une sonate. Un jour, je composerai un morceau pour lui, à quatre mains pour le piano. En attendant, ne sois pas ingrate.
Eh bien, composez mon ami, je ne doute pas de votre génie. Lorsque vous aurez fini, venez me rejoindre dans mon...
George Sand.
Dans mon... lit. Dans mon... lit.
Et de la croix à George Sand disait, le rouge me monte aux joues. Quand tu es nu, quand tu es nu, tu me rends fou. J'ai envie de mordre ta viande. Ce grain de beauté sur ton épaule évoque une fleur exotique. Il pince ma fibre romantique. Ce grain de beauté vaut un tableau. Un tableau. Un jour, je peindrai une nature morte, ou bien je braverai à l'eau forte, oui à l'eau forte, une odalisque sur ta peau. Ce grain de beauté vaut un tableau.
Eh bien travaillez mon ami, je ne doute pas de votre génie. Et lorsque vous aurez fini, venez me rejoindre dans mon...
George Sand.
Quand autrefois dans les salons, la jeune fille de la maison venait chanter en rougissant, les invités serraient les dents, regrettant que rien ne prohibe la lolulilléo de lib à ses gosiers entreprenants. Et d'une inconscience admirable, enchaîne les notes malheureuses et vocalise défectueux. Rendons hommage aux casseroles qui chantent à tout hasard. Jamais vraiment un bécard, jamais vraiment un bémol. Aux casseroles, aux fossés, où ouvrez la chasse aux canards et rassassinez Mozart dans l'environ et le bizarre, dans la joie et la peur. On a connu des parisiennes qui chantaient résolument faux. Pourtant, quand elles étaient sur scène, le monde entier braillait bravo. Une milliardaire américaine voulut piauler de l'opéra, ce qui nous valut quelques migraines. Puis un disque chez RCA. Comme quoi le gène de la justesse n'est pas celui de l'ambition. De chanter faux, je le confesse, j'ai la secrète tentation. Rendons hommage aux casseroles qui chantent à tout hasard. Jamais vraiment un bécard, jamais vraiment un bémol. Aux casseroles, aux fossés, ouvrez la chasse aux canards et rassassinez Mozart dans l'environ et le bizarre, dans la joie et l'à peu près. Aux casseroles, aux fossés, vous qui chantez comme des guimbardes, comme Assurance Tour X le barde, qu'avez une voix comme un outrage, une voix de mule, une voix de garage. Chantez et prenez bien vos aises, avec les dons, les la, les dièses, affranchis de toute harmonie. Et même plus beau que ce qu'on entend à la radio. Parfois, rendons hommage aux casseroles qui chantent à tout hasard. Jamais vraiment ta bécard, jamais vraiment ta bémol. Aux casseroles enfoncées, ouvrez la chasse aux canards. Et rassassinez vos ailes dans l'environ et le bizarre, dans la joie et l'à peu près. Aux casseroles enfoncées.
Tour de Babel, laquelle est la plus belle, la plus aimable parmi les femmes de nos amis, laquelle est notre vraie nounou, la petite sœur des pauvres de nous, dans le guignon toujours présente, quelle est cette fée bienfaisante? C'est pas la femme de Bertrand, pas la femme de Gontran, pas la femme de Pamphile, c'est pas la femme de Firmin, pas la femme de Germain, ni celle de Benjamin. C'est pas la femme d'Honoré, ni celle de Désiré, ni celle de Théophile, le encore moins la femme de Nestor, non c'est la femme d'Hector. Comme nous dansons devant le buffet bien souvent, on a toujours peu ou prou les bas criblés de trous qui raccommodent ses malheurs de fils de toutes les couleurs, qui brode divines cousettes des arcs-en-ciel à nos chaussettes. C'est pas la femme de Bertrand, pas la femme de Gontran, pas la femme de Pamphile, c'est pas la femme de Firmin, pas la femme de Germain, ni celle de Benjamin. C'est pas la femme d'Honoré, ni celle de Désiré, ni celle de Théophile, encore moins la femme de Nestor, non c'est la femme d'Hector. Quand on nous prend la main sacrée, bon Dieu, dans un sac, et qu'on nous envoie planter des choux à la santé, quelle est celle qui, prenant modèle sur les vertus des chiens fidèles, reste à l'arrêt devant la porte en attendant qu'on en ressorte? C'est pas la femme de Bertrand, pas la femme de Gontran, pas la femme de Pamphile, c'est pas la femme de Firmin, pas la femme de Germain, ni celle de Benjamin. C'est pas la femme d'Honoré, ni celle de Désiré, ni celle de Théophile, encore moins la femme de Nestor, non c'est la femme d'Hector. Et quand l'un d'entre nous meurt, qu'on nous met en demeure de débarrasser l'autel de ses restes mortels, quelle est celle qui remue tout Paris pour qu'on lui fasse au plus bas prix des funérailles gigantesques, pas nationales non mais presque? C'est pas la femme de Bertrand, pas la femme de Gontran, pas la femme de Pamphile, c'est pas la femme de Firmin, pas la femme de Germain, ni celle de Benjamin. C'est pas la femme d'Honoré, ni celle de Désiré, ni celle de Théophile, encore moins la femme de Nestor, non c'est la femme d'Hector. Et quand vient le mois de mai, le joli temps des mai, que sans écho dans les cours nous hurlons à l'amour, quelle est celle qui nous plaint beaucoup, quelle est celle qui nous saute au cou, qui nous dispense sa tendresse, toutes ses économies de caresses? C'est pas la femme de Bertrand, pas la femme de Gontran, pas la femme de Pamphile, c'est pas la femme de Firmin, pas la femme de Germain, ni celle de Benjamin. C'est pas la femme d'Honoré, ni celle de Désiré, ni celle de Théophile, encore moins la femme de Nestor, non c'est la femme d'Hector. Ne jetons pas les morceaux de nos cœurs au pourceau, perdons pas notre latin au profit des pantins. Chantons pas la langue des dieux pour les balours, les fesses Mathieu, les patoquets ni les bobèches, les foutriquets ni les pimbèches, ni pour la femme de Bertrand, pour la femme de Gontran, pour la femme de Pamphile, ni pour la femme de Firmin, pour la femme de Germain, pour celle de Benjamin, ni pour la femme d'Honoré, la femme de Désiré, la femme de Théophile, encore moins pour la femme de Nestor, mais pour la femme d'Hector.
J'ai toujours le cœur du même côté. La belle folie d'octobre est en moi. Avec la colère, l'espoir assuré et le désarroi. À l'est où le soleil se lève, on bâtissait le paradis. Et moi, je croyais à ce rêve. Qu'en reste-t-il donc aujourd'hui? Les mots sont usés, les pères sont morts. Lutte victorieuse, guide bien-aimé. Et la boue de sang derrière le décor, elle est barbelée. Pourtant, sur les vieilles photos, les pauvres aux yeux illuminés vibraient pour un monde nouveau. Dites-moi qui les a trompés. Ils ne demandaient pas grand-chose à part un peu de lumière, un peu de bonheur. On a remplacé une terreur par une autre terreur. Je vois la vérité trahie par les puissants qui la déforment. La réalité travestie et les cerveaux qu'on chloroforme. Le pouvoir n'a fait que changer de main en gardant sa gueule sale de geôlier. Quand je rêve encore, je rêve à demain, tout pourrait changer. Oh, la tâche était difficile, ça n'excuse pas maintenant ceux qui ont bâillonné les villes, ceux qui ont tué le printemps. J'ai toujours le cœur du même côté, la belle folie tout au fond de moi, avec la colère, l'espoir assuré et le désarroi.
Est-ce les soucis qui changent ta vie, qui changent ta gueule, que t'aimes ou fille, ou c'est l'alcool? À quel bonheur tous ces malheurs qui te font écrire, t'as des soucis dans ton whisky? On prend un coup, on en boit un, plus on est quitte, plus on est bien. On prend des coups, on en boit plein, plus on est quitte,
plus on ne vaut rien,
plus on ne vaut rien. «
en crise d'enfant ou en Xbox. L'adolescent joue de ses parents la coule intox. Leur pauvre gars qui coince la bulle, parfois se jette en cachette une vodka Red Bull. On prend un coup, on en boit un, plus on est quitte, plus on est bien. On prend les coups, on en boit plein, plus on est quitte, plus on ne vaut rien. Allier vin à Monceau les mines, plan social au coup de crise ou dans les usines. Plus turbin pour celui-là qui noie son chagrin dans un verre de vin ou une bière ch'ti. On prend un coup, on en boit un, plus on est quitte, plus on est bien. On prend les coups, on en boit plein, plus on est quitte, plus on ne vaut rien. Toi le voyou qui toile une tisse, te fais la belle, maître Mérogis, non sans malice. Par la police, tu te fais descendre sur le vieux port, trois balles dans le corps, vends ton pastis. On prend un coup, on en boit un, plus on est quitte, plus on est bien. On prend les coups, on en boit plein, plus on est quitte, plus on ne vaut rien. Toi qui as le ventre plus gros que les yeux, le chantre d'un pouvoir, maire de bourse ou les cieux. Mets ta le boudoir